I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Binge Audio. Septembre 2006. Je suis arrivée à Paris il y a maintenant plusieurs semaines et je traîne dans les rues à Châtelet. Mes amies sont toutes restées à Toulouse et ont commencé leurs études. Quand j'ai rien à faire ici, elles sont déjà en cours. Ce n'est plus du tout la même vie qu'au lycée. Maintenant, j'ai du temps. Les contrôles de maths ne me manquent pas du tout. Mais moi, ce qui me manque, ce sont mes amis. Ici, je suis seule et je me demande ce que je fais là. Je connaissais pas du tout cette ville et je découvre que je parle pas du tout la même langue que les autres.
Bonjour madame, je voudrais une chocolatine s'il vous plaît.
Et la caissière du supermarché ne comprend rien non plus.
Madame, je pourrais avoir une poche s'il vous plaît?
Une poche?
Pour nous, une poche, c'est une poche de jean.
Non mais attends, chez nous dans le sud, une poche, c'est aussi quelque chose dans lequel on met nos courses. Je suis désolée.
J'ai bientôt 18 ans et je sais pas encore avec qui je vais souffler mes bougies. Niveau look, on est sur une pizza moite-moite palourde 4 fromages. Au pied, j'ai des TN qu'une amie m'avait donné, un pull pinky, un jean troué au genou, la frange sur le côté et un MP3 rouge métallisé qui me crachait du diams dans les oreilles. J'étais dans ma bulle, dans les rues de Saint-Michel.
Allô ?
Ouais, coucou papa, ça va ?
Bah écoute, ça va, j'étais en train d'écouter un peu de...
T'écoutes de la musique ? C'est quoi ?
Oh ben c'est toutes les musiques des années 60, à l'époque de Salut les copains. Ça me fait un petit flashback.
Les années étudiantes, c'était important pour toi?
Bah oui, c'est important les années étudiantes. C'est les années où on sort tous ensemble. C'est les années où finalement on fait les 400 coups, quoi, tu vois.
Je me souviens que quand je suis partie à Paris, t'étais sur le quai de la gare et puis quand le train il est parti, tu m'as tourné le dos. Tu m'as tourné le dos parce que je pense que tu retenais tes larmes. Tu te souviens de ça?
Oui, ben je crois que c'est une page qui se tourne et dans la vie du jeune et dans la vie des parents. Donc, cette page, parfois, elle est un peu douloureuse, même si on sait que ben, c'est pour le bien de ses enfants.
Alex?
Ouais.
Toi, ça n'a pas été trop dur finalement après le bac, parce que t'es né en Île-de-France, t'as toute ta famille ici, t'as jamais vraiment eu à partir. T'aurais aimé partir?
Franchement, je sais pas.
T'es bien ici, hein?
Ouais, je suis bien là.
Moi, c'est marrant parce que j'avais le rêve de venir vivre en Île-de-France. Depuis le lycée, sur tous les skyblogs, je regardais les gens d'Île-de-France, les banlieusards, vous aviez des skyblogs de dingue. Et j'ai passé mon temps à regarder vos photos, vos commentaires, vos textes. Et c'était ultra inspirant. Pour moi, vous étiez les influenceurs de l'époque, quoi.
À cet âge-là, je mise tout le jeu de cartes que j'ai construit au lycée. Je repars sur une nouvelle vie. Devenir comédienne. Pour moi, c'est un rêve impossiblement possible. Je sais que ça va être dur. Mais tant pis. J'essaye. Je tente le tout pour le tout. Et au pire, ça marche. Les règles sont simples. Je me crée une carte vitale, une
carte électorale,
une carte imaginaire,
carte étudiante,
une carte de cinéma,
carte de fidélité Sephora.
Je retire chaque dimanche soir 40 euros pour tenir toute la semaine. J'imprime vite des CV pour trouver un job alimentaire. Et je m'inscris à une fac que j'arrêterai quelques semaines plus tard. Un soir, j'ai rencontré Marie-Lou en me coinçant dans un lavomatique. Elle habitait dans le même quartier que moi, à Paris 19. Et la fille m'a balancé...
Tu veux un gâteau ?
Voilà. Elle m'a dit ça en sortant un gâteau de son sac.
Mais t'inquiète, on va pas mourir aujourd'hui.
Ouais, ok. Au moins, on ne mourra pas. Bah, en tout cas, elle m'a souri. Et j'ai su que c'était mon phare, cette fille. Ce qui est fou, c'est qu'on était destinés à se croiser. On avait exactement le même rêve, celui de devenir comédienne. On était inscrites dans la même fac, on habitait à une rue d'intervalle, on avait le même âge et on lavait notre linge sale au même endroit.
On s'est rencontrées fraîchement débarquées toutes les deux à Paris. Ouais. Et ben, le jour où on s'est vues, effectivement, on s'est plus jamais quittées.
Alors après 2 heures d'attente et 30 gâteaux ingurgités dans le lavomatique, un mec ultra énervé est venu nous ouvrir. Il nous a hurlé dessus en nous disant « Ouais, je vous ouvre, mais là, il faut vraiment sortir. » Et nous, on voulait récupérer notre linge. Mais là, il nous a stoppé net dans notre folie. Il nous a dit « Non, les règles, c'est les règles. Vous le récupérerez demain à 10h du matin. » Mais il s'agissait à peu près de notre seul linge dans le tambour.
Monsieur, notre linge ?
À ce moment-là, j'ai proposé à Marie-Lou de venir dîner chez moi pour relâcher un peu la pression. Je vivais dans un très, 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 très grand 12 mètres carrés dans une résidence étudiante. Et dans cet immeuble, il y avait aussi Pauline. Une Toulousaine, comme moi, que j'avais rencontrée en cours de théâtre quelques semaines plus tôt. Un jour, je l'ai entendu dire qu'elle cherchait un logement et je lui ai filé le plan parce qu'il restait une place 2 étages au-dessus de chez moi. Pauline rêvait aussi d'être actrice et comme nous, elle adorait consommer de la purée en sachet le vendredi soir. On adorait manger à 3 avec pour table un tabouret. On passait notre temps à déplier, replier nos lits pour faire de la place. On essayait de tout ranger dans des boîtes à chaussures. Il fallait que tout rentre.
Nickel.
Ça va pas rentrer, je te dis.
Mais si, regarde. Attends, mais c'est sûr que après, si tu mets rien de droit, il faut tout équilibrer aussi. Attends.
C'est complètement guédin, tu vas pas mettre la lampe et le faire repasser dans la boîte
mais
à chaussures.
Mais si, il suffit d'enlever l'ampoule, on va la mettre ailleurs et t'inquiète.
Parfois, on arrivait à faire cuire des œufs au plat en même temps que je te faisais ta teinture pour les cheveux et en même temps qu'on était en dessous des manteaux qui pendaient au porte-manteau.
Oui, bah, c'est les joies des logements parisiens en fait.
On n'était pas nombreuses, mais à nous trois, on était déjà une grande famille. Tous les soirs, on allait les unes chez les autres, on refaisait le monde. En tout cas, on essayait de construire le nôtre.
Je pense vraiment qu'on a eu besoin de se reconstituer une famille en tant que, entre guillemets, déracinés de nos terres et de nos familles toulousaines.
On arrive dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, où on a laissé nos amis, notre famille, et là, on va, c'est notre vie d'adulte, en fait, et on se trouve, on se construit et on se reconstruit une bande.
Un soir, Pauline nous a présenté Marie-Paul, sa meilleure amie du Sud, qui venait la voir pour quelques jours.
Salut les meufs, j'arrive de Toulouse, je vous galoche toutes, 6 heures de train, 3 vomitos, mais me voilà.
Marie-Paul, c'était la seule d'entre nous qui ne voulait pas du tout être comédienne. Et en plus, elle avait un don, celui de faire le pendule et les cartes.
Non mais je vous jure les filles, ça marche. Bon allez, je vais vous le faire.
Entre 2 assiettes de purée, elle a proposé de nous lire l'avenir.
Bon là je suis connectée, je me concentre.
À ce moment-là, on a coupé notre respiration.
Ça...
On a espéré fort pour nos futurs.
On va être honnête.
Mais de mémoire, elle nous a sorti beaucoup trop de fois.
Bon, ça mouline, c'est pas gagné.
Alors, parfois son pendule, c'est sûr, il dit pas toujours juste. Mais bon, sur ce coup-là, je reconnais qu'elle a eu du flair. Hein, parce que on a gagné l'intermittence du spectacle au bout de 15 ans. 15 ans.
Et en même temps, c'est ce qui a fait la beauté de cette époque. Parce que sur quoi on rigole maintenant ? Tu te souviens ces années galères, tu te rappelles ça, voilà, c'est vrai. Et je crois qu'en plus, l'amitié se soude aussi dans ces moments de galère comme ça. Cette solidarité qu'on avait, cette insouciance, ces bons moments, on a su kiffer.
Nous, on était naïves. On espérait réussir vite, on avait la fougue, on était impatientes et assez folles pour y croire. D'ailleurs, bah, je sais pas trop ce qu'on imaginait, hein, mais une fois, je me souviens qu'on est parti passer une soirée à Montmartre en pensant qu'on était dans Amélie Poulain.
Trop beau, attends, je vais faire une photo de toi devant le Sacré-Cœur.
Attends, je mets mes lunettes de soleil, vas-y.
Ah non, mince, c'est fermé le café des Deux Moulins.
Mais on a qu'à attendre l'ouverture pour le petit-déj, on pourra faire des photos avec des croissants.
Je rêvais de jouer dans des films, mais au lieu de ça, je me forçais à aller en cours alors que je détestais ça. J'ai d'ailleurs arrêté la fac quand je me suis rendu compte que je m'y étais inscrite uniquement pour m'y faire des amis.
Même quand on était à la bourre, tu venais pas en amphi avec moi, t'allais te chercher un cappuccino à la cafette.
Bah, en même temps, c'est trop important le cappuccino.
Ah non, mais...
Alex ?
Ouais ?
Pendant les années étudiantes, c'était important pour toi d'avoir des amis ?
Ouais, je me souviens quand j'étais arrivé à la fac, je m'étais fait tout un monde en fait. J'imaginais la fac comme dans les séries américaines, les équipes de foot, les équipes de basket, les pom-pom girls, mais rien de tout ça. Moi j'ai fait un cursus scientifique Et on s'est retrouvés entre mecs et ils nous ont tous parqués dans la tour Galilée.
Dans une tour qui s'appelait la tour Galilée qu'entre mecs, mais t'as étudié dans les années 50 ou quoi?
Un jour, pendant une visite médicale, un médecin m'a demandé si j'étais un peu stressée en ce moment. Et bon, bah, j'ai dit oui parce que c'était le cas. Alors là, il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai dit non. Et si j'avais des parents en bonne santé, bah, j'ai dit oui parce que c'était le cas. Et il m'a dit, mais c'est génial, c'est l'âge parfait celui dans lequel vous êtes. Parce que vous vous inquiétez pas encore pour vos parents et vous vous inquiétez pas non plus pour vos enfants. Et vous verrez, un jour, vous allez vous faire du souci pour vos parents et vos enfants en même temps. Et ce sera ça le stress. Je repense souvent à sa phrase et je me dis que mon père devait exactement être dans cette zone-là à cette époque, en train de s'inquiéter pour la génération au-dessus et en dessous de lui.
Quand on voit ses enfants partir vers un job artistique, on se dit « Ah là là, ouïaïaïe !» C'était vraiment extrêmement, extrêmement angoissant pour nous de devoir partir parce qu'on sait que ce sont des domaines qui sont extrêmement complexes. Il y a peu d'élus finalement.
C'était angoissant pour eux, mais c'était angoissant pour nous aussi. On avait fait croire à nos familles qu'on pouvait y arriver dans le domaine artistique et maintenant, ben, fallait au moins que ça marche un petit peu. Sinon, j'étais bonne pour un retour à la case départ. Avec Pauline et Marie-Lou, on essayait de rassurer nos parents comme on pouvait et de se rassurer nous-mêmes aussi. On avait des jobs alimentaires toutes les trois.
Et je me rappelle que je partais à 5h du matin pour aller bosser au magasin. Je partais à la fac après. J'enchaînais avec du coup les cours de théâtre le soir qui se terminaient à pas d'heure. On a envie aussi d'y arriver par nous-mêmes.
De toute façon, je pense que c'était aussi un truc commun qu'on avait eu dans notre éducation, ça. Ce côté de toute façon, t'as fait le choix de venir à Paris pour faire de l'art. C'est pas la fête. Pas la fête. Même si c'était pas la fête, bah quand même, c'était un petit peu la fête, hein.
Une nuit, on dormait ensemble, il était genre 2h du mat, tu vois où je vais. Et on était super stressés parce qu'on avait un casting le lendemain matin. Oh ben on n'arrivait pas à dormir, on s'est rhabillés et on est parti en boîte. Et on a fait nuit blanche avant d'aller au casting le lendemain matin. On s'est foiré en beauté d'ailleurs.
Ah ouais, grave.
Attends, le pire truc qu'on ait fait quand même, c'est d'avoir volé un fût de bière, meuf.
Et elle, c'était la reine de la vengeance.
Marie-Paul, dès qu'on avait un problème de cœur, c'était la personne qu'il fallait appeler. Ouais. Parce qu'elle vengeait toutes les amies qui avaient eu une peine de cœur. Je m'en souviens, à chaque fois qu'on avait une peine de cœur, on appelait Marie-Paul.
Le vengeur masqué.
Je me suis déjà retrouvée à pister des chéries de copines que l'on pensait pas très net. Et effectivement, je me vois partir en pyjama, tout feu éteint dans ma voiture, pour pister la cible, me garer au bout d'une rue et ramper sous une haie de sapinette pour pouvoir espionner qui il faisait rentrer chez lui ou pas.
Voilà, c'est ça. S'il fallait ramper pour une sœur sous des sapinettes, ah ben on était là, quoi. On se serrait les coudes, coûte que coûte. Le bureau des tracas était constamment ouvert. Toujours là pour répondre à nos questions. 7-7-24-24.
On était sur de la question existentielle quand même, hein. Mais quand même, elle m'appelait à 3h du matin pour me demander si du poisson décongelé, elle pouvait le recongeler. Mais, bref, ça, est-ce que si je mets de l'eau de Javel dans la machine à laver, ça va tout, hein. Voilà, on ne sait pas.
Toi, je me souviens quand même d'une fois où tu m'as dit, eh ben écoute, j'ai pas eu le choix, j'ai fait toute la vaisselle avec du gel douche. On faisait la vaisselle ensemble, même sans éponge. On découvrait tous les arrondissements de Paris. Et souvent, on dormait ensemble entre sœurs, sur des semaines entières, pour rêver côte à côte la nuit.
On avait envie de rester ensemble, de parce que la reprise était dure, d'être loin de nos familles et tout ça. Et on a substitué ça en dormant toutes les deux pendant un mois, je pense.
Tu venais chez moi ou je venais chez toi. Et je me souviens, on avait un lit en dessous de notre lit qu'on sortait, qu'on dépliait à la même hauteur. Et on se faisait des séries, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. On n'arrivait pas à dormir seul à ce moment-là. Et comme on habitait à deux étages l'une de l'autre, je me souviens, on était dans les escaliers en pyjama ou dans l'ascenseur, on allait l'une chez l'autre.
C'était vraiment Friends, ouais. Parce que tout le monde venait squatter chez toi ou chez moi, on embarquait les copains. Et c'est vrai qu'on avait vraiment une bande. Et des fois, je me rappelle des après-midi entiers à glander, à se raconter des conneries.
Je sais aujourd'hui que si j'avais pas eu ces amis-là, à ce moment précis, j'aurais peut-être lâché tous mes rêves.
Ah mais c'est clair. C'est clair que quand on a des objectifs comme ça, que t'as pas de connexion sans venir de ce milieu, c'est sûr qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon moment autour de toi, quoi. Parce que sinon, tu perds complètement confiance, tu te perds.
Ah non, mais ça, c'est sûr. Moi, j'avais besoin d'avoir des amis comme vous, parce qu'on se comprenait, on faisait la même chose. Et c'est ce qui nous aidait à pas lâcher la barre des objectifs.
Mais oui, on a eu les années galères de « on avance dans nos projets », de « on a choisi de bosser dans l'artistique », donc bon, bah, pas simple, des déceptions... Ouais, on a refait le monde plus d'une fois et puis on a séché nos larmes plus d'une fois à coup de bonbons, de gâteaux et de rigolades.
C'est accepter d'avoir une vie familiale à distance. Qu'est-ce que c'est de gérer ça? Et nous, on expliquait à nos parents qu'on voulait être comédienne à l'époque. On faisait plein de jobs alimentaires et tout, mais eux, ils voyaient pas concrètement ce qu'on faisait. Ça les inquiétait. Donc, il y avait des moments, je me souviens, où on se retrouvait en larmes, toi et moi, parce qu'on s'était pris la tête avec nos parents respectifs, parce qu'on avait l'impression qu'ils comprenaient rien de ce qu'on fait. Et on se soutenait comme si on avait été deux sœurs et qu'on se parlait. C'est comme si, moi, j'ai eu l'impression avec toi pendant longtemps que j'avais quatre parents. Avec ma sœur. Et qu'on se raconte ensemble ce que nos parents ont fait. On se réparait en mangeant de la glace à la fraise. On apprenait à vivre une vie familiale à distance, en restant soudés, en séchant nos larmes à la glace. C'était ça, vivre loin de sa famille, et apprendre à s'en recréer une. C'était les premières amies sœurs de ma vie que je ne rencontrais pas en cours de récréation, mais bel et bien parce qu'on se rejoignait dans tout. Nos aspirations, nos racines de province, et notre quartier, Paris 19e. Et même si je les ai rencontrés par hasard, ce sont des amis de destinée. On ne savait jamais ce qui nous attendait, et on attendait ensemble. Et tant qu'on était ensemble, c'est tout ce qui comptait. On faisait bloc contre l'univers.
Ah, et c'est sûr que c'était l'époque où on avait du temps pour tout. On avait du temps pour parler des heures.
Ouais, grave.
Pour sortir tard, pour rentrer tard.
Dormir tard.
Pour manger tard.
Pour vivre tard. Et surtout pour se lever tard.
Surtout. Et moi, j'ai un souvenir très précis de ton réveil.
que je n'entendais pas.
Qui sonnait pendant des plombes.
Je suis encore à la bourre, Régine, elle va me tuer.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you, the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.